Edoui Plenel était en visite à l'auditorium du musée Fabre vendredi 25 novembre dernier. Occasion pour le journaliste et conférencier de venir présenter son dernier livre, Voyage en terre d'espoir. Nous sommes donc allés à sa rencontre. Bonjour Edoui Plenel et merci d'être avec nous aujourd'hui à Montpellier à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, Voyage en terre d'espoir, sorti aux éditions de l'Atelier en octobre dernier. Alors moi, ma première question va être pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre et pourquoi avoir choisi ce titre, Voyage en terre d'espoir ?
Alors, la façon dont est venu ce livre, en fait, c'est pas une volonté, ça s'est passé à l'insu de mon plein gré. En fait, c'est une idée de l'éditeur et surtout des historiens qui sont les maîtres d'œuvre de ce continent immense qui s'appelle le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, appelé souvent le Métron, de son fondateur Jean Métron. 76 volumes, près de 200 000 notices biographiques, de méconnus, de moins connus, de tous ceux qui se sont battus pour nos idéaux démocratiques et sociaux. Et c'est eux qui, à l'occasion de la fin d'un cycle, de la lettre A 1789 à la lettre Z 1968, sachant l'amour presque que j'ai pour ce continent englouti presque, et mon plaisir de le revisiter souvent, ils m'ont demandé si je ne voulais pas, au fond, faire quelque chose pour montrer que ce n'était pas simplement un travail académique pour les historiens du mouvement social, mais que ça concernait tout le monde, tous les citoyens de tout milieu, puisque ça raconte notre histoire, l'histoire du peuple, pourrait-on dire. Et au début, ça devait être une petite préface, après une petite sélection de notices, et puis c'est devenu un essai sur le Métron, quelle histoire il raconte, quelle histoire il pratique, suivi d'une sorte de voyage amoureux, on aurait pu en prévoir d'autres, de notice en notice, à Sceaux et à Gambade, mais très concret, hein, avec des lieux, des places, et à chaque fois on rebondit d'un lieu à l'autre, dans le Métron pour donner envie d'aller y voir. Quant au titre, c'est tout simple, je crois qu'il suffit d'ouvrir le livre pour le comprendre. C'est l'idée qu'en convoquant tous ces petits fantômes, tout ce passé plein d'à présent, c'est une façon de se redonner force et courage par rapport à l'époque actuelle, par rapport à la campagne présidentielle. C'est rappeler que notre destin ne s'est jamais fait autour d'un seul, que même d'une certaine manière réduire nos espoirs collectifs au choix d'un seul, c'est d'une certaine manière les perdre, les voir confisqués. Donc c'est rappeler comment il y a eu d'histoires collectives, etc. Et puis c'est se dire que ce ne sont pas les personnages qui sont au fronton des monuments officiels qui ont vraiment fait notre histoire. Tout cela ne sont rien sans ce peuple qui est dans le Métron.
Et du coup, vous conseillerez à qui est destiné alors cet ouvrage ? Il est pour qui ?
Il est pour tout le monde, mais j'espère d'abord à la jeunesse, parce que la jeunesse, en revoyant cela, se découvre toute une jeunesse, justement, une vitalité, une fraîcheur des idéaux originels tels qu'ils surgissent dans la foulée de la Révolution française. Et donc on trouve en plus des aventures, des personnages, des hommes, des femmes qui se déplacent. On trouve cette idée que l'idéal d'égalité, c'est le refus d'être assigné à sa naissance, assigné à son appartenance, assigné à sa condition. Et donc c'est de pouvoir faire chemin, cet horizon d'espérance qui est toujours propre à la jeunesse. La jeunesse, elle n'est pas encombrée comme des âges plus épais, plus alourdis. Elle a envie d'inventer. Et là, ces histoires-là montrent des gens, encore une fois, des gens de tout genre, de tout milieu, qui ont osé inventer. Ils ont pris des coups, ils ont été réprimés, ils ont été exilés, ils ont trébuché, ils ont eu des chagrins politiques et néanmoins, ils ont continué à avancer. Et je crois qu'en lisant ça, on se dit, bon, on va arrêter de se lamenter, on va arrêter de dire l'espoir est bouché, on va arrêter de dire je sais pas ce que je vais faire et tout, on va se dire, on se secoue, on agit là où on est, comme on peut, comme ces gens-là. Et puis si on fait ça, eh ben, on aura à nouveau de l'espérance.
Le premier chapitre, si on peut dire, s'intitule donc La victoire des vaincus. Est-ce que c'est leur rendre hommage quelque part à ces vaincus? Ces vaincus, on n'en parle pas, on n'en parle presque jamais d'ailleurs.
Oui, c'est plus qu'un petit livre, c'est un petit essai. Hein. Il y a deux parties, hein. Il y a cette victoire des vaincus et après il y a au hasard du dictionnaire la promenade. La victoire des vaincus, c'est une façon de faire un pied de nez ou un bras d'honneur. C'est pas de dire « Ah là là, ils ont été vaincus, comme c'est triste et tout, certains sont morts sans voir leurs idéaux être admis, ou certains ont donné leur vie pour tout ça, ou certains ont eu beaucoup de souffrances. » Non, non, c'est de dire justement que ce sont les vaincus qui ont des choses à nous dire. Les vainqueurs ne nous apprennent pas grand-chose. Les vainqueurs, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Comment on conquiert le pouvoir? Comment on manœuvre pour y rester? Comment on accumule de la puissance, voire de la fortune? Bon, ça nous apprend un peu d'entêtement cynique, ça nous apprend peut-être des techniques comme ça, mais c'est pas intéressant. Pourquoi c'est intéressant, les vaincus? Parce que les vaincus, ils laissent un espoir qui n'a pas abouti. Ils laissent une petite flamme, une petite trace, un petit fil ténu que l'on peut reprendre. Et donc, au lieu de nous laisser cette histoire muséifiée des vainqueurs, cette histoire antiquaire, fermée, close, qui ne nous parle pas, où il faut simplement admirer comme on se promènerait à Versailles, eh bien ceux-là, les vaincus, c'est-à-dire l'immensité du peuple, des anonymes, des moins connus, des méconnus, nous laissent toutes sortes de fils d'espérance. Alors, c'est à la fois leur rendre hommage, bien sûr, mais c'est aussi se dire que c'est comme ça qu'on avancera. C'est comme ça qu'on comprendra, au fond, notre présent. Je crois qu'il y a un passé plein d'à présent. Je crois que le présent est toujours encombré de petits fantômes. Et que c'est ces fantômes qu'il faut convoquer contre les spectres. Il y a les spectres de la haine, de la terreur, de la peur, et ils sont à l'œuvre aujourd'hui de la division, de l'inégalité, du repli, de la clôture. Et nous, on a notre armée de petits fantômes qui sont autrement souriants, autrement généreux, autrement conquérants. Les revisiter, ça permet de retrouver encore une fois la fraîcheur de ces idéaux originels. Ce sont trois mots, une république démocratique et sociale.
Vous trouvez qu'on en est loin aujourd'hui?
Bien sûr qu'on en est loin, mais comme toujours, hein, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. On n'en est pas loin dans nos têtes, on n'en est pas loin dans ce que beaucoup de jeunes et d'autres moins jeunes ressentent. Nous sentons bien que ce pouvoir présidentiel, bonapartiste, césariste, c'est une confiscation de la volonté populaire. Nous sentons bien que derrière cette confiscation, il y a le poids des oligarchies qui du coup jouent sur l'inégalité, ne veulent pas faire droit à nos droits. On sent bien qu'il y a une offensive de régression des droits sociaux qui a toutes sortes d'apparences, y compris de gauche et pas seulement de droite, mais qu'il y a aussi une offensive, cette fois-ci très conservatrice, qui vise les femmes, qui vise les minorités sexuelles, les homosexuels, les lesbiennes, qui vise l'ensemble de nos compatriotes qui ont des apparences, des appartenances, qui bousculent la norme majoritaire, mais qui sont notre peuple, le divers de notre peuple. Je pense bien sûr à la façon dont sont discriminés nos compatriotes musulmans, dont ils sont désignés comme des boucs émissaires. Je pense à toute cette jeunesse populaire issue de notre projection sur le monde et qui est victime du contrôle aux faciès parce qu'elle a une peau plus foncée que d'autres et ainsi de suite. Eh bien, toute cette histoire convoque ces causes communes qui sont au cœur du levier de transformation démocratique. Moi, je refuse d'être comme un lapin pris dans les phares. Je refuse de me dire de Trump à Marine Le Pen, en passant par Fillon, par Valls, jusqu'à Poutine et Erdogan, et le maréchal Sisi en Égypte, quelle catastrophe! Bien oui, il y a une catastrophe, mais les générations que je convoque là, elles ont vécu d'autres, bien pires de catastrophes, bien plus violentes, et elles ont fait face. Et c'est parce qu'elles ont fait face qu'on a pu rebondir, qu'on a pu reconquérir des droits. Donc nous, on doit faire pareil.
On ne combat plus plus assez, c'est ça ? Et ce livre, il vient un peu comme réponse à une jeunesse qui ne se bat plus, qui a arrêté à un moment donné de combattre.
Ah, je ne crois pas. Il y a eu, même cette année, avec la loi travail, avec les nuits debout, toute une jeunesse qui s'est ébranlée. Non, je ne suis pas là comme un vieux con à dire à une jeunesse « secouez-vous », etc. Je ne le crois pas du tout. Il y a toute une jeunesse qui bouge, il y a toute une jeunesse qui est impatiente. Simplement, elle se dit « c'est compliqué ». Elle se dit « on n'a pas de leader, on n'a pas de parti politique, on n'a pas de réponse évidente, on est dans une crise de civilisation, crise financière, crise écologique, crise de perspective globale, crise d'une civilisation globale. » Donc certains se disent « il vaudrait mieux avoir le programme, il vaudrait mieux savoir où on va ». Et moi je leur dis « non ». Allez-y, grimpez, cherchez l'horizon, et là j'offre quoi ? J'offre une carte, comme une carte d'état-major, on disait dans le passé, comme une carte géographique qui permet de s'orienter.
Un carnet de voyage en somme.
Et oui, un carnet de voyage qui permet de continuer à faire chemin, mais surtout de ne pas s'immobiliser.
Alors, une autre question, c'est qu'en se renseignant du coup sur qu'est-ce que le Metron, ce qui est frappant, c'est que du coup, ce dictionnaire biographique, il n'y a pas de leader, il n'y a même personne en avant réellement. Pourquoi avoir voulu mettre en évidence Alphonse Baudin ?
Ah ben c'est pas un leader justement, c'est un type totalement oublié, il était médecin des pauvres, plutôt dans les quartiers populaires, il allait en banlieue parisienne, il siégeait à la gauche, voire à l'extrême gauche de l'Assemblée de la Deuxième République, et il est mort à 40 ans dans une mort inutile sur une barricade le 3 décembre 1851, en disant face à des gens qui avaient déjà renoncé et qui le moquaient, en disant vous allez voir, et il est mort pour la République, qu'était en train d'assassiner le premier président de la République élu au suffrage qui n'était pas universel, puisque les femmes ne votaient pas, qui était le neveu de Napoléon, le futur Napoléon III. Donc, pourquoi ce choix ? D'abord pour dire qu'en France, notre problème, c'est ça. C'est le césarisme, c'est le présidentialisme contre lequel cet homme a donné sa vie. Et en donnant sa vie, il a sauvé ce principe. Je rappelle que c'est pour ça que les Républicains, jusqu'à la crise de la Ve, qui a donné naissance à la Ve République, ne voulaient plus de président de la République élu au suffrage universel. Ils avaient vu ce danger que le grand un du pouvoir personnel remplace la pluralité de la délibération démocratique. Et l'autre raison pour laquelle il est là, cet Alphonse Baudin totalement oublié, c'est que c'est le début du voyage. Car l'endroit où il est mort, c'est l'endroit où je gare mon Vélib tous les matins et que je le reprends chaque fois que je pars de Mediapart, puisque c'est à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Antoine et de la rue Crozatier, tout près du passage Brulon, où sont les locaux de Mediapart. Et le voyage commence avec ce souvenir de Baudin, qui est aussi pour nous une histoire de presse qu'on a racontée au début de Mediapart, car c'est sous la fin du Second Empire, quand il y a eu un petit moment d'Empire libéral, Charles de Lescluze, un républicain, a fait un journal, Le Réveil. Il n'y avait pas le droit de faire des partis politiques, il n'y avait pas le droit de faire des manifestations et des réunions politiques. Et donc il faisait des banquets pour le monument à Baudin. Pour construire un monument à Baudin, c'était la façon de réunir les républicains. Et Charles de Lescluze, donc, a réveiller cette mémoire fait que Baudin est aujourd'hui au Panthéon, qu'il a eu une statue qui, hélas, a été fondue par Vichy et les nazis et qui n'est plus là. Nous, on aimerait bien qu'on la reconstruise, on l'a dit à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Et surtout, de l'excuse, lui-même est mort sur une barricade à la fin de la Commune de Paris, dont il était un des dirigeants. Donc, c'est une façon de rappeler ces héros tragiques qui ne sont pas, qui n'ont pas une grande œuvre, qui n'ont pas été des grands chefs de parti, qui n'ont pas été des grands leaders, qui n'ont pas eu le temps de vraiment gouverner, mais qui ont sauvé de l'espoir.
Et comment vous les avez sélectionnés ? Alors j'imagine que vous n'avez pas garé votre Vélib dans, tout le, non, dans tous les endroits que vous visitez. Comment vous les avez sélectionnés ?
Il y avait une règle, prendre à chaque fois, arbitrer pour le moins connu et pas prendre des célébrités. Puis après, c'est une formule de Montaigne, à Sceaux et à Gambade. Donc de Baudin, je pars à de l'Escluse. Donc ça m'amène toujours au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. Du coup, j'arrive aux résistants de Clamecy dans la Nièvre. La Nièvre d'où est issu Jean Métron, ainsi que son père et ainsi que son grand-père. Du coup, j'essaye de comprendre le mouvement ouvrier de la Nièvre. Ce sont les flotteurs de bois. Et j'arrive au fondateur du syndicat des bûcherons. Et puis ainsi de suite. Et je me balade. À chaque fois, je rebondis. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je rebondis à un moment sur un personnage trop peu connu ici à Montpellier et en Languedoc, qui est Paul Vignier, dit Paul Vignier Docton, lui aussi médecin de la coloniale, qui est un des premiers grands dénonciateurs du colonialisme en France, qui en a vu les ravages et qui a publié plusieurs livres sur ce sujet au début du siècle précédent, à une époque où la très grande France allait de soi pour tout le monde, y compris pour des gens de gauche, et qui, par ailleurs, à Octon, dans l'Hérault, a été un maire assez étonnant, un type assez original. Et donc, j'essaye toujours de convoquer des personnages comme cela, puisque Jaurès, tout le monde en aura entendu parler. Et on le croise, Jaurès. Mais plutôt que Jaurès, je parle d'Amédée Dunois, qui est né Cathonnet. Dunois était son pseudonyme. Eh bien, Amédée Dunois était à côté de Jaurès quand il a été assassiné au Café du Croissant, à l'été 1914. Il est mort en déportation. C'était le rédacteur en chef du Populaire, le journal socialiste. Il a traversé tous les débats de la gauche de cette époque. Et bon, c'est un personnage totalement oublié, lui aussi, mais passionnant. Et ce Cathonnet, eh bien, toujours, il y a une histoire personnelle, parce qu'il se trouve que j'ai connu un de ses petits-fils, du coup, je parle de son fils, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à, pour continuer sur la région, terminer ce voyage par une vraie randonnée, du virtuel au réel, que j'ai faite en finissant ce livre, de Banyuls à Portbou, en Espagne, sur le chemin qu'on appelle maintenant le chemin Walter Benjamin ou Walter Benjamin en allemand, qui, par lequel beaucoup d'antifascistes et de persécutés ont pu partir et s'échapper pendant la Seconde Guerre mondiale, et hélas, au bout duquel Walter Benjamin s'est suicidé. Il y a un très beau monument au cimetière de Portbou qui lui rend hommage. Walter Benjamin, que je cite beaucoup dans l'introduction, dans sa philosophie d'une histoire qui justement prend conscience de la catastrophe, prend conscience des périls et convoque cet espoir comme une lumière à l'instant des périls. Et donc je termine par une femme formidable, Lisa Fitko, qui est celle qui faisait passer tous ces gens. Donc voilà, c'est aussi une façon de revisiter plein d'histoires et de sortir au moment où vous avez des politiques qui nous parlent des Gaulois, du roman national, de la colonisation qui était un bienfait et qui prétendent nous renvoyer au fond dans nos foyers pour les femmes, et puis les ouvriers qui n'aient même pas, je viens d'entendre ça cette semaine, qu'il n'y ait plus de durée légale du travail, c'est ce que propose M. Fillon, ce qui est quand même totalement fou. Eh bien voilà, il faut se rappeler tous les combats de ces hommes et de ces femmes pour nous-mêmes être au rendez-vous là, parce qu'il va falloir se secouer, on va pas les laisser faire.
Et est-ce que vous pensez que vous auriez pu vous figurer dans le Métron, et a fortiori du coup, pourquoi pas dans votre livre ?
Non, moi je figure, je suis pas postéromane, je fais ma vie, et bien que j'ai des amis qui soient dans le Métron, j'en cite quelques-uns à la fin que j'ai côtoyés, et d'autres, voilà. Et puis le Métron lui-même est une œuvre qui va se compléter en permanence. Il est en ligne maintenant, donc on peut du coup l'actualiser en permanence. J'ai d'ailleurs fait remarquer aux historiens qu'il y avait selon moi quelques personnages qui n'y étaient pas et qui devraient y figurer. Mais moi, je suis un citoyen comme vous. Je fais ce que je dois et comme journaliste, après, voilà, c'est... j'ai dit tout à l'heure, il n'y a de passé qu'au présent. Donc c'est les futurs présents qui décideront ou non... Si vous ou moi sommes dans le futur Métron.